Bonjour Jérôme Durin.
Bonjour.
Et bienvenue sur RFI.
Merci.
Le Sénat français a adopté hier la proposition de loi contre le narcotrafic que vous portiez. Adoption obtenue par 339 voix sur 339 votants. Est-ce que cette unanimité vous rassure ?
Oui, elle me rassure d'abord sur un sujet qui est au-delà de notre périmètre, c'est la capacité dans ce pays à avoir un travail parlementaire de fond, puisque vous le savez, cette proposition de loi est issue d'une commission d'enquête, ce qui avait été elle-même adoptée à l'unanimité. Donc quand on se met sur des sujets de fond ensemble, on arrive à produire des textes qui sont solides, puissants et qui peuvent transformer la vie des gens, on l'espère.
Et ça vous rassure aussi sans doute, parce que ça signifie que tous les sénateurs ont pris conscience de la gravité de ce qu'est le trafic de drogue aujourd'hui en France.
Oui, je crois que vous avez trouvé le bon mot. C'est le point de départ, c'est cette gravité de la situation, l'état de la menace qu'on a documenté dans la commission d'enquête et qui a poussé tout le monde à dépasser un peu ses a priori, puisque des communistes aux écologistes jusqu'à LR, tout le monde s'est rallié à ce texte. On a été d'ailleurs protégé par la commission d'enquête qui a donné un cadre transpartisan qui nous a évité certains excès ou certains sujets qu'il aurait été maladroit d'aborder. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a fait du bon travail.
Alors ce texte, il est répressif et on va donner quelques données chiffrées. Le trafic de drogue en France aujourd'hui, c'est plus de 400 morts l'année dernière. Entre 3 et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 240 000 personnes qui en vivent directement ou indirectement. Plus de 3 000 points de deal. Est-ce que votre texte, est-ce que cette proposition de loi peut casser cette machine très puissante ?
Nous l'espérons. Ça n'arrivera pas demain matin. Ouais. C'est une construction qui n'est pas aboutie. Déjà, le parcours législatif.
Bien sûr, il faut encore passer devant l'Assemblée nationale.
Exactement. Et puis, il va falloir mettre en œuvre les outils que nous proposons. J'ai utilisé une formule hier que je veux réutiliser ce matin. Le terrorisme fracasse la société, le narcotrafic la ronge. Et c'est ça qui est à l'œuvre. Et au-delà des chiffres que vous citez, qui sont éloquents, ce qu'on ne perçoit pas, c'est cette menace indistincte du quotidien, la corruption, les codes criminels qui évoluent, les gamins qui tombent dans le trafic, cette emprise territoriale. Donc notre texte, c'est une boîte à outils avec une nouvelle organisation, un parquet national et puis un état-major pour lutter contre la criminalité organisée. Et puis une boîte à outils avec beaucoup de mesures pour aider les douaniers, les magistrats, des éléments de procédure pénale, des éléments de lutte contre le blanchiment, contre la corruption, qui normalement, mis bout à bout, devraient quand même porter un coup dur au narcotrafic.
Alors la mesure phare, vous l'avez dit, c'est la création d'un parquet spécialisé, un parquet national anticriminalité organisée. Qu'est-ce que cela va changer très concrètement, Jérôme Durin ?
Par exemple, éviter un Carville. Vous vous souvenez un Carville, Mohamed Ramra, la mouche, une personne particulièrement dangereuse, dont on n'a pas réussi à faire passer les informations correctement du judiciaire vers le pénitentiaire. 4 juridictions interrégionales spécialisées qui auraient pu suivre cette personne qui ne le faisait pas. Voilà, ben on veut éviter ça, c'est-à-dire une bonne coordination, une circulation de l'information.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne marche pas.
Les administrations ne parlent pas suffisamment entre elles.
Beaucoup de monde se charge, enfin, est en charge d'un petit bout de la lutte contre le narcotrafic, mais on ne se parle pas.
On ne se parle pas dans le champ opérationnel, dans le champ de l'investigation, entre douaniers, gendarmes, policiers, pas suffisamment en tout cas. Et au sein du monde judiciaire, certains tribunaux gardent une affaire parce que c'est une belle affaire, mais en fait, il y a des ramifications, ça mériterait d'être traité plus haut. Certaines juridictions interrégionales spécialisées devraient se saisir d'une autre affaire, mais ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Au niveau national, on ne voit pas. Donc nous, on veut des patrons, des gens qui coordonnent, qui assurent que toutes les affaires sont bien traitées, au bon niveau, et puis qu'on traite au niveau supérieur, le haut du spectre, ceux qui nous intéressent vraiment, les têtes de réseau.
Les têtes de réseau, bien sûr. Quand est-ce que ce parquet pourrait être opérationnel de façon effective, si la loi va jusqu'au bout ?
Alors Gérald Darmanin a répondu à mon intervention hier en disant qu'il avait déjà fléché 100 magistrats pour cette année, donc la préfiguration du parquet est en marche, et ça devrait fonctionner au 1er janvier 2026, théoriquement.
Oui. C'est suffisant, sans magistrat, c'est suffisant. Est-ce qu'on aura le budget derrière face à l'ambition et aux défis que représente la lutte contre le trafic de drogue ?
Au-delà du texte, j'ai posé deux questions au nom de mon groupe. C'était celle des moyens, parce qu'effectivement, c'est le cri du service public, cette lutte contre le narcotrafic, une justice embolisée, des moyens insuffisants pour les forces de sécurité intérieure. Donc évidemment, il y a une question structurelle de moyens, des prisons cocottes-minutes. Il faut qu'on règle tout ça sur le long terme. Sur ce point dédié, je pense qu'on va y arriver, parce que c'est un dossier du haut de la pile, c'est extrêmement important. Mais il ne faut pas oublier que ça s'inscrit dans un contexte plus large de services publics en déshérence. Et si on ne donne pas les moyens à la magistrature et à nos forces de sécurité intérieure, on n'y arrivera pas.
Et ça coûte cher ? Ça coûte très cher ?
Le parquet, d'après Gérald Darmanin, garde des Sceaux, c'est 130 millions d'euros par an. Mais rapporté à 3,5 milliards ou 6 milliards de chiffre d'affaires, on peut presque autofinancer notre lutte contre le narcotrafic avec ce qu'on va prélever sur la bête. Donc il faut y aller.
Alors justement, vous insistez sur la nécessité de frapper les trafiquants au portefeuille. Comment y arriver ? Comment vous faites ?
À tous les étages. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On arrive à interpeller les petites mains. C'est le cas des opérations PlaceNet, c'est le cas du travail quotidien, des enquêteurs, des gens qui n'ont pas fait grand-chose, qui ne risquent pas grand-chose, qui ne savent pas grand-chose.
C'est-à-dire les petits dealers ?
Les petits dealers, ceux qui sont bas les réseaux. En revanche, les patrons, ceux qui sont à Dubaï, ceux qui sont au Maroc, ouais, dans le sud de l'Espagne, ouais, on ne les voit jamais. Donc il faut donner des moyens d'investigation, des moyens pour saisir les avoirs criminels, des enquêtes financières, fiscales. On manque de spécialistes, donc c'est là qu'il faut mettre l'accent. Donc il y a une dimension de projection vers le haut du spectre, comme on dit dans le langage criminel. Mmh. Et puis, par ailleurs, il y a le blanchiment du quotidien, les commerces éphémères, les kebabs, les bars à chicha, les ongleries, qui n'ont pas d'activité réelle, mais dont on voit les patrons rouler dans de grosses voitures. Et là, on a donné des outils administratifs aux maires et aux préfets pour aller chercher l'argent du blanchiment de tous les jours.
Vous parliez des gros patrons planqués, si je puis dire, à Dubaï ou au Maroc. Comment est-ce qu'on les attrape, eux ? Il faut une coopération avec...
Oui,
les États.
C'est tout à fait. C'est un sujet qui est aujourd'hui défaillant parce qu'on a des États qui sont peu coopératifs. Hein, on le voit avec Dubaï. Donc on a maintenant des officiers de liaison, des magistrats de liaison. Mais il faut intensifier l'effort et puis mettre la pression sur ces États refuges parce que sans ça, on n'avancera pas.
Oui. Jérôme Durand, on entend, vous êtes socialiste hein, et on entend certains de vos camarades regretter qu'on ne parle que de répression dans ce texte. Est-ce qu'il faudrait aussi, ou plus tard, parler de prévention ?
Oui, bien sûr, ça marche sur deux jambes. Et il y a deux écueils dans le débat. C'est ceux qui disent les consommateurs ont du sang sur les mains et les autres qui disent la légalisation va tout régler. Mmh. C'est pas vrai. Mais en revanche, il faut se poser la question.
Les deux se trompent, c'est ça ?
Les deux se trompent. En tout cas, c'est une vision trop parcellaire. Il faut l'accès aux soins, il faut de la prévention, il faut un traitement des addictions. Et c'est sûr que si on ne traite pas la demande, le seul travail contre l'offre ne fonctionnera pas. Donc on travaille déjà sur la répression parce que c'est urgent et le reste doit venir.
Et on se demande aussi comment on va pouvoir détourner les plus jeunes des trafics quand être dealer ou guetteur vous rapporte facilement des centaines d'euros pour quelques heures.
C'est alors, un long travail d'éducation aussi, parce que les codes criminels, ils se nourrissent des codes sociaux avec une fascination pour la richesse immédiate. D'ailleurs, si l'argent finit à Dubaï et que les influenceurs aussi, je ne sais pas si c'est une connivence culturelle, mais en tout cas, c'est le signe qu'on se trompe de cible et qu'on a un projet de vie qui n'est pas souhaitable.
Jérôme Durand, on le disait, il faut maintenant que le texte passe devant l'Assemblée. Là, c'est au tour du 17 mars. Vous avez bon espoir de rencontrer le même unanimité, le même soutien auprès des députés. On sait que l'Assemblée nationale est plus éruptive, plus fracturée que le Sénat, par exemple.
Oui, je suis optimiste, mais pas rêveur. Donc, je pense que ce sera plus difficile. En revanche, avec un départ comme celui-là au Sénat, une unanimité, ça crée quand même un élan, je l'espère. Et je pense qu'on aura une majorité pour adopter ce texte.
Merci Jérôme Durand d'être venu ce matin sur RFI.